9h24, l'avocat criminaliste Frank Pappas est avec nous et vous allez pouvoir poser vos questions. Je rappelle le numéro de téléphone 514-790-9850, donc en droit criminel. Ça peut être des questions qui vous touchent personnellement ou ça peut être des questions plus générales sur le droit criminel. Maître Pappas, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
On va vous poser quelques questions ce matin, juste pour qu'on mette la table. Après ça, on va aller vers nos auditeurs. Souvent, là, quand il y a des causes qui sont entendues dans les médias, puis on nous dit qu'il faut faire la démonstration que quand un crime a été commis, un geste violent a été commis, il faut démontrer l'intention criminelle. Ça veut dire quoi, ça, l'intention criminelle?
Mais ça, c'est un élément essentiel d'une infraction criminelle. En plus de l'acte qui est commis, ça prend une intention. Donc, l'individu que l'on accuse, on doit être capable, l'État doit prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait l'intention de commettre l'acte. Donc, cette intention peut être prouvée par une preuve circonstancielle, mais on doit démontrer que ce n'est pas un accident. Par exemple, je suis dans un établissement licencié, je suis en train de me commander une bière, je me retourne de bord et puis ma main frôle le sein d'une demoiselle qui est à mes côtés. Donc oui, il y a un contact de ma main sur une partie du corps de la dame, mais je n'avais pas l'intention criminelle de la toucher sexuellement ou de poser le geste avec une intention avec une sous-jacente de sexualité à l'arrière. Même chose, peut-être plus tirée par les cheveux, une personne qui décide de manier son arme à feu. Donc, il a une arme à poing, il a un pistolet, il est en train de le nettoyer. Et en le nettoyant, n'ayant pas aperçu qu'elle était chargée, la balle sort du pistolet et heurte quelqu'un. Donc, il s'agit là d'un accident aussi. Donc, à quel point, à quel niveau est-ce qu'on peut démontrer qu'une intention, il y a certains crimes qui requièrent une intention spécifique, d'autres requièrent une intention d'ordre général. Des fois, l'insouciance téméraire peut aussi équivaloir à l'aveuglement volontaire, par exemple. L'aveuglement volontaire, c'est plus au niveau de la connaissance. Comme ça aussi, c'est une autre notion qui est un peu, mais qui n'est pas ambiguë ou floue. Une personne qui m'offrirait 50 000 $ pour transporter une valise de Montréal à Vancouver. Et cette valise-là, elle est cadenassée. Je ne peux pas voir à travers. Je ne peux pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai aucune idée du contenu de la valise. Mais j'accepte le 50 000 $ pour un transport qui, normalement, par Purolator, coûterait 14 piastres. Donc là, évidemment, c'est de l'aveuglement volontaire. Je me suis, moi, dans ces circonstances-là, privé de poser les questions que j'aurais dû poser afin de porter à ma connaissance le contenu de la valise. Donc, cet aveuglement volontaire-là va m'incriminer.
OK. Quand on parle de négligence criminelle, ce qui est un autre concept, là, à quel moment ça devient de la négligence? Puis là, tu sais, j'ai un chien, je sais qu'il est agressif, je ne l'attache pas, il saute sur quelqu'un. Puis là, faut qu'on démontre que j'ai été négligent, que j'avais quoi, l'intention criminelle ou comment ça marche?
Et oui, effectivement. Je dirais le terme qui me vient à l'esprit, c'est « marked departure ». Si on se démarque de la norme ou du comportement raisonnable dans les circonstances, mais il faut que ce soit un « marked departure », il faut que ce soit quand même assez prononcé, là, il y a une négligence. On peut rattacher le crime à la négligence, sinon, ça, c'est comme une conduite automobile. L'erreur, même l'erreur grave, la faute civile grave, n'entraîne pas nécessairement une condamnation criminelle. Il faut vraiment là, qu'il y ait une démarcation, que ce soit hors les normes de ce qu'une personne raisonnable ferait dans les circonstances.
Donc, pas juste un peu, là. Il faut que ça soit vraiment marqué.
Exactement.
OK. On va aller au téléphone avec nos auditeurs, donc Maître Frank Pappas, avocat criminaliste. Posez vos questions sur le droit criminel. Et le numéro est de 514-790-9850. Et on commence avec Vladimir. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je me suis toujours demandé comment faisait-on pour rétablir le montant d'une réclamation. Exemple, mettons, on va acheter quelque chose, on subit une intoxication alimentaire ou il y a quelqu'un où on fait l'objet d'une diffamation. Lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un pour préjudice, comment fait-on pour rétablir la réclamation du montant?
Ça, je vous le dis.
Facteurs de cause, hein?
OK. Ça, c'est pas vraiment dans mon domaine de spécialité, mais il y a des barèmes jurisprudentiels qui existent. Donc, tout, évidemment, dépend du préjudice que vous êtes en mesure d'établir devant le juge avoir subi. C'est-à-dire, admettons que vous êtes un pianiste et puis que votre profession, c'est de jouer à la place des arts et que vous faites des concerts et que vous gagnez 200 000 piastres par année et à cause de la négligence d'une tierce personne, vous perdez deux doigts. Ce qui vous donc vous êtes dans une position de démontrer que voici ma vie est altérée à tout jamais. J'ai 55 ans, c'est tout ce que j'ai fait de ma vie. Je peux pas me recycler pour devenir vendeur d'automobiles usagés demain, ou je peux essayer de le faire. Donc je vais essayer de mitiger les dommages. Mais voici donc au niveau de l'intoxication alimentaire, l'exemple que vous avez donné. Donc vous avez manqué tant de journées de travail, ça équivaut à X, en plus que vous avez souffert, vous n'avez pas dormi, vous êtes rendu à l'hôpital, vos enfants ont souffert aussi à cause de vos malaises. Donc, il faut essayer de quantifier monétairement avec une preuve à l'appui, c'est-à-dire que vous devez amener les faits devant le juge et puis essayer d'attacher des sommes d'argent à ces faits-là et puis rajouter un petit bonus pour le préjudice subi.
Parfait, monsieur, merci beaucoup. Mais on n'a pas de tradition comme aux États-Unis là, de dédommagement spectaculaire. Là.
Non, absolument pas. C'est beaucoup plus modéré. Aux États-Unis, c'est, comment dirait-on, le free-for-all. Et puis, les causes civiles aux États-Unis sont entendues par des jurys aussi. Et les jurys font partie, à moins que je ne me trompe, du jugement final au niveau du dédommagement est accordé au demandeur, si le demandeur a gain de cause, évidemment.
OK, on va aller parler avec Mario. Mario, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur, on vous écoute.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, j'ai subi en 2001, c'est-à-dire 2000-2001, ça fait quand même une vingtaine d'années passées, une première offense de faculté affaiblie au volant. Et j'ai un dossier criminel présentement. Ma question, c'est que je sollicitais tout le temps. On me demandait autrefois si je voulais payer pour avoir une demande de pardon. Est-ce que c'est nécessaire? Puis est-ce que ça va être honoré dans tous les États américains? Est-ce que je peux aller en Floride, à New York? Ou je sais pas. C'est ma question.
Okay.
C'est juste une première offense.
Non, écoutez, ici, il s'agit d'une vieille offense. Quant à moi, vous n'auriez aucune difficulté à entrer aux États-Unis présentement, même avec l'antécédent judiciaire. Mais pour environ 1 000-1 500 piastres, quelques milliers de dollars, ce qui couvrirait tous les frais, vous pourriez demander faire une requête en réhabilitation, que ça s'appelle maintenant. C'est pas onéreux, c'est pas compliqué à faire. Je peux vous diriger, si vous voulez laisser vos coordonnées aux recherchistes plus tard, je peux vous diriger à quelqu'un qui peut le faire. Et puis, avec un antécédent qui date d'il y a 20 ans, vous avez des chances de l'avoir. Si l'antécédent de faculté affaiblie était un peu plus récent, je vous dirais que même si le crime comparativement à d'autres peut être d'une gravité objective moindre, les chances d'avoir un pardon sont plus minimes. Parce que...
Il y a une période de temps qu'il faut considérer, là, j'imagine, entre le moment de l'infraction et la demande du pardon.
Ça oui, effectivement, là, c'est 5 ans minimalement. Mais aussi, puisque dans les causes de faculté affaiblie, c'est une des rares causes dans le code criminel où, pour une récidive, on peut incarcérer des gens. Donc, pour une deuxième offense, la personne est incarcérée. Pour une troisième offense, il y a des peines minimales d'incarcération. Donc, si le gouvernement accorde des pardons trop facilement, les procureurs seraient pas en mesure de démontrer l'antécédent du monsieur ou de la dame qui est accusé afin de leur faire subir l'opprobre de la loi.
OK, parfait. Merci, monsieur. Mais là, on parle de conduite avec faculté affaiblie. Est-ce qu'il y a d'autres crimes où c'est plus difficile d'obtenir un pardon?
Oui. Des agressions sexuelles, par exemple, ça, c'est presque impossible. Je dirais parce qu'on est enregistré dans un database.
Dans les vols, par exemple, vols qualifiés ou...
Vols qualifiés aussi, parce qu'il y a énormément de violence, il y a un aspect de violence. Mais pour les vols ordinaires, c'est des choses qui se donnent.
OK. On va aller parler avec Marie. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien. Allez-y, madame, je vous écoute.
Oui, OK. Moi, j'appelle au sujet d'une agression sexuelle qu'il y a eu sur un enfant à l'école. Moi, je voulais savoir parce que cet enfant-là a un handicap et puis elle ne peut pas témoigner à la cour contre le garçon qui l'a agressé. Mais moi, je voulais savoir parce qu'on m'a obligée à partir de l'école pour interroger ma fille.
OK, attendez, madame, je veux juste comprendre deux, trois choses avant. Là. Votre fille qui a été agressée, là, elle a quel âge?
C'était en 2012, okay. Elle avait 11 ans à l'époque.
11 ans. Et l'agresseur, présumé, lui, avait quel âge?
Le même âge.
Le même âge. Puis ça s'est passé à l'école?
Oui.
OK.
Moi, ce que je pense, que l'agresseur devait être âgé de plus que 12 ans. Parce qu'en bas de 12 ans, on peut pas accuser quiconque d'un acte criminel. Donc, je présume que l'agresseur devait avoir 12 ou 13 ans. Ou bien,
il y avait 11 ans, il avait le même âge.
Ils avaient le même... Il n'a pas été accusé, mais...
Ah, OK, c'est ça.
Non, il n'a pas été accusé. Donc, moi, je voulais savoir, vu que ma fille, on a eu la preuve vraiment parce qu'elle a eu des réactions physiques, elle s'est mise à vomir quand on y parle d'agression sexuelle. Est-ce qu'on peut poursuivre la commission scolaire pour la façon dont ils ont suivi l'affaire parce qu'ils ont mis l'agresseur devant elle pour l'interroger, ils m'ont obligé à partir...
Absolument. Le fait là qu'il n'y ait pas eu d'accusation criminelle parce que le jeune garçon était âgé de moins de 12 ans, ou le fait que même si une personne est acquittée, comme O.J. Simpson, par exemple, qui a été acquitté du meurtre de son ex-épouse, n'empêche pas un recours civil. Et si votre fille a subi un dommage, nécessairement, si les événements sont survenus de la façon que vous nous le décrivez, elle a subi un préjudice, il y a eu un dommage, vous pouvez intenter l'action, peut-être même contre le jeune homme, mais définitivement contre les parents du jeune homme, et s'il y a un lien de causalité et un préjudice causé de par le handling ou de la façon dont la commission scolaire s'est occupée de l'affaire, et puis vous pouvez démontrer une responsabilité de leur part, vous pouvez les actionner aussi. La seule chose, je vérifierais les délais. À l'époque, la période de prescription était plus courte, mais je pense que maintenant, même si l'événement est arrivé en 2012, vous êtes à l'intérieur de votre délai, mais pressez-vous d'aller rencontrer un civiliste qui peut vous guider dans la matière puis vous dire si vous... Je suis à 99% certain que vous êtes dans les délais pour intenter les recours. Et puis, de la façon que vous me décrivez ça, vous avez probablement un recours.
Juste pour bien comprendre aussi, là, est-ce qu'on parle d'une agression? Est-ce qu'elle a été agressée à plusieurs reprises par le jeune garçon en question?
C'est vraiment une agression. Puis, elle est pas, elle peut pas témoigner, c'est sûr, à la cour. Sauf que son corps a vraiment réagi parce qu'on est parti à quelque chose, puis dans les questionnaires, il y avait cette question-là, et elle s'est mise à vomir automatiquement.
OK. Mais, vous me dites qu'elle ne peut pas témoigner parce qu'elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu, c'est ça?
Ben, elle
okay. OK. Parfait, madame. Merci. On va s'arrêter pour la pause. Les circuits sont occupés, mais... Ça en libère un de temps en temps pour parler avec Maître Frank Pappas. 514-790-9850. 514-790-9850.